Chapitre 9. Nietzsche ouvrit les yeux et distingua deux vagues silhouettes. Z est très en colère contre toi. Même si les sons semblaient venir d'un autre monde, Nietzsche reconnut la voix de Richard. Elle fut surprise de l'entendre. À vrai dire, elle était surprise d'entendre, tout court. En principe, elle aurait dû être morte. Alors que sa vision s'éclaircissait, elle tourna la tête vers la droite et vit que son ami était assis sur une chaise à son chevet. Penché en avant, les coudes sur les genoux et les mains croisées, il regardait l'ancienne maîtresse de la mort.
« Pourquoi m'en veut-il ? »
demanda-t-elle. Soulagé de voir son ami réveillé, le sourcier se radossa à son siège et sourit, le petit sourire en coin qui avait toujours fait fondre Nietzsche. « Parce que tu as brisé une fenêtre dans la salle où vous avez lancé le sort de vérification. » À la lumière tamisée d'une lampe, Nietzsche vit qu'elle reposait sous une magnifique couverture brodée de fils d'or et ornée de franges brillantes vert sauge. Elle portait une chemise de nuit en satin qu'elle voyait pour la première fois de sa vie. Le vêtement était rose, pas le genre de couleur qu'elle aimait. Nietzsche se demanda d'où sortait cette chemise de nuit. Puis elle se posa la question corollaire et lourde de sens, qui l'avait déshabillée avant de lui enfiler ce fichu truc rose? Des années plus tôt, au palais des prophètes, Richard l'avait profondément troublée. Avant lui, elle avait toujours rencontré des gens qui prétendaient avoir un droit sur son corps ou sur la manière dont elle menait sa vie. En rompant avec cette règle, le sourcier l'avait incité à une réflexion déchirante. Au terme de cet examen de conscience, elle s'était détournée du gardien, aussi bien que des enseignements pervers de l'ordre impérial. Grâce à Richard, elle avait compris qu'elle était la seule propriétaire de sa vie. À partir de cette révélation, elle avait pu revendiquer sa liberté, militer pour sa dignité et cesser de se dévaloriser en permanence. Pour l'heure, elle avait d'autres projets que de se prélasser dans une chemise de nuit rose. Mais sa tête douloureuse paraissait trop lourde pour qu'elle puisse la soulever de l'oreiller.
« D'un point de vue pratique, dit-elle, c'est la foudre qui a brisé la fenêtre, pas moi. »«
C'est bizarre, fit Cara, assise sur une chaise près de la porte. « Mais j'ai peur que le distinguo laisse de marbre notre premier sorcier. »«
Tu as sans doute raison, soupira Nietzsche. Cette salle est située dans la partie fortifiée du complexe.
La partie fortifiée ? Répéta Richard d'un rien surpris. Nietzsche cligna des yeux pour mieux voir le visage de son ami.
Magiquement parlant, bien sûr. Ce secteur est protégé des interférences volontaires et de tous les événements purement fortuits.
Ça vous ennuierait de traduire ? Demanda Cara.
Un champ de protection ?
Reformula Nietzsche.
« Tu vois ce que c'est ?»
La mort de Cite acquiesça.
« Nous ne savons rien de la création du sort d'oubli, la chaîne de flammes, qui est pourtant une des plus impressionnantes réalisations des sorciers de jadis. Considérant la configuration interne de ce sort, l'étudier est déjà en soi-même très difficile. C'est pour ça que nous avions choisi cet endroit un peu spécial pour lancer la toile de vérification. Cette salle se trouve dans le cœur même de la forteresse, un sanctuaire conçu pour toutes les invocations qui sortent de l'ordinaire. Plusieurs types d'opérations magiques, qu'elles soient préconstruites ou spontanées, impliquent des flux tangentiels qui peuvent, dans certaines circonstances, provoquer des brèches structurelles. Lorsqu'on manipule ces toiles-là, dangereuses par essence, il est plus prudent de se placer sous la protection d'un champ de force.
Merci pour les explications. La coupa Cara, comme si elle implorait grâce. « Au moins j'ai compris les trois derniers mots. Il s'agit d'une sorte de bouclier. »
« En gros, c'est ça. Pratiquer la magie à l'intérieur de ce champ revient à enfermer une guêpe dans une bouteille. »«
Je vois, » s'écria la mort de Cite, frappée par la métaphore d'une limpide simplicité. « Ça explique pourquoi Zed est si mécontent. Il pourra sans doute remettre tout en ordre, » dit Richard. Si curieux que ça paraisse, la salle n'est pas trop dévastée. C'est la fenêtre cassée qui met Z dans tous ses états. Nietzsche leva péniblement une main.
C'est normal, Richard. Le verre de ces vitraux est unique. Il est traité pour empêcher les fuites de pouvoir et pour interdire les attaques de sorciers ennemis. Il agit un peu comme un champ de force, mais sa fonction est d'empêcher la circulation du pouvoir, pas des personnes.
Richard réfléchit quelques instants. Il ne nous a pas épargné l'attaque de la bête, dit-il au terme de sa méditation.
C'était impossible,
répondit Nietzsche, le regard fuyant, comme si elle était fascinée par les rayonnages qui faisaient face au lit.
La bête n'a traversé ni les murs ni les fenêtres. Elle a franchi le voile, émergeant directement du royaume des morts. Elle n'a pas été obligée d'affronter un champ de force ou une fenêtre en verre spécial.
« Et elle a failli vous arracher un bras !»
s'écria Kara, un index accusateur brandi sur Richard.
« Vous avez utilisé votre don, Seigneur, et cela a attiré cette horreur. Si Zed n'avait pas été là pour vous soigner, vous auriez été saigné à blanc comme un goré. »
« Kara, chaque fois que tu racontes l'histoire, mon hémorragie est un peu plus grave. Dans quelque temps, tu prétendras que j'ai été coupé en deux et recousu avec du fil magique. »«
Vous avez bien failli être coupé en deux, justement !»
lança la mort de Sith.
« Allons, ma blessure n'était pas si grave que ça et je vais bien maintenant. »
Richard se pencha et prit la main de Nietzsche. « Par bonheur, tu as éliminé le monstre. »«
Provisoirement, c'est tout. »«
Et c'est déjà très bien, tu as été formidable, Nietzsche. »
Dans les yeux gris de son ami, la magicienne lut qu'il pensait vraiment ce qu'il disait. Quand Richard était satisfait de l'exploit d'un de ses compagnons, le monde paraissait toujours un peu plus beau. Ignorant la jalousie, il se réjouissait toujours de la réussite des autres, et lorsqu'il la félicitait, Nietzsche sentait son cœur s'emballer de joie. Alors qu'elle faisait le tour de la pièce du regard, elle remarqua la statuette posée sur une table, juste derrière Richard. Inspirée par le courage et la détermination de Callan, d'où son nom « Bravoure », cette création de Richard incarnait l'éternelle résistance de la vie face aux forces invisibles qui tentaient sans cesse de lui rogner les ailes.
« Je suis dans ta chambre, »
murmura Nietzsche.
« Comment le sais-tu ? »
demanda Richard, le front plissé de perplexité. Nietzsche détourna les yeux de la statue et les riva sur la petite fenêtre ménagée dans le mur de gauche. Dans le ciel encore constellé d'étoiles, une lueur bleu pâle annonçait l'imminence de l'aube.
« J'ai deviné, c'est tout, »
mentit Nietzsche.
« C'était la plus proche, » expliqua Richard. « Zed et Nathan insistaient pour que tu sois confortablement installé dans un lit afin qu'ils puissent t'examiner. »
À l'étrange sensation qui courait dans tout son corps, une sorte d'engourdissement glacé, Nietzsche aurait mis sa tête à couper que les deux vieillards ne s'étaient pas contentés de l'examiner.
« C'est Rika et moi qui vous avons déshabillé puis revêtu de cette chemise de nuit dégotée par Zed, »
expliqua Kara.
« Merci pour tout. Combien de temps ai-je été inconsciente? Et que s'est-il passé avant mon réveil ?»«
Il y a deux nuits de ça, lorsque tu t'es volontairement enfermé de nouveau dans le construct afin d'arrêter la bête. La toile de vérification a bien failli avoir ta peau. Heureusement, j'ai pu t'en sortir. » Selon Zed, tu avais surtout besoin de repos, et il a utilisé son pouvoir pour que tu puisses dormir. Comme la douleur te faisait délirer, il s'est arrangé pour que tu ne la sentes plus. Il a prédit que tu dormirais d'une traite pendant deux jours. Visiblement, il ne s'était pas trompé.
Kara se leva et vint se camper juste derrière Richard.
La seconde fois, tout le monde a pensé que le Seigneur Hal ne réussirait pas à vous libérer. Anna, Zed et Nathan étaient persuadés que votre esprit s'était enfoncé trop profondément dans le royaume des morts. Mais le Seigneur Hal a déjoué tous les pronostics.
Nietzsche sonda le regard de Richard et n'y lut rien qui pût donner une idée de l'ampleur de son exploit. Comment avait-il pu accomplir une performance pareille? Parfois, ses réussites dépassaient l'imagination.
« Tu as été formidable, Richard. »
dit la magicienne, arrachant un sourire à son ami. Quelqu'un frappa à la porte, puis l'entrebâilla. Après avoir jeté un coup d'œil et vu que la convalescente était réveillée, Zed poussa le battant et entra d'un pas décidé.
« On est revenu d'entre les morts, dirait-on »
lança-t-il à Nietzsche.
« Une excursion sans intérêt »
fit la magicienne avec un petit sourire.
« Je déconseille la visite, pour être franche. Quant à la fenêtre, je suis désolé, mais c'était...
Mieux vaut perdre une fenêtre que voir arriver un malheur à Richard.
C'est l'idée générale,
dit Nietzsche, soulagé que le vieux sorcier en soit arrivé à cette conclusion.
Un de ces quatre, il faudra que tu m'expliques ce que tu as fait en précisant comment tu t'y es prise. J'ignorais qu'il existait une magie capable de briser ces vitraux.
Il n'en existe pas. J'ai invité plusieurs forces naturelles à traverser cette fenêtre.
Z gratifia la magicienne d'un regard lourd de sens.
Puisque nous parlons de cette fenêtre, eh bien, ton aptitude à contrôler les deux facettes de la magie devrait te permettre de la réparer.
Je serai ravi de vous aider. Quand Tom et Friedrich reviendront de leur patrouille,
dit Kara,
ils s'occuperont de tout ce qui concerne le cadre. Friedrich est un menuisier très doué.
Z acquiesça, eut un petit sourire satisfait, puis se tourna vers Richard.
Où étais-tu donc, mon garçon? Ce matin, je t'ai cherché partout. Pour être franc, je t'ai cherché toute la journée.
Nietzsche comprit que la fenêtre n'était pas le premier souci du sorcier, loin s'en fallait. Richard jeta un petit coup d'œil à la statuette.
J'ai beaucoup lu cette nuit. Dès l'aube, je suis allé faire un tour pour réfléchir à la suite des événements.
Z eut un soupir agacé.
Quand tu as délivré Nietzsche du premier construct, ne t'ai-je pas dit que nous devions parler de tout ça?
À l'évidence, il ne s'était pas agi d'une suggestion ni d'une requête, mais d'une exigence. Voyant que Nietzsche voulait s'asseoir dans le lit, Richard se leva pour disposer les oreillers dans son dos. La douleur n'était plus qu'un vague souvenir. Pour qu'il en aille ainsi, Z ne s'était sûrement pas limité à faire dormir Nietzsche. L'esprit de plus en plus clair, elle s'avisa même que son estomac criait famine.
« Eh bien, parlons, »
dit Richard à son grand-père tout en se rasseyant.
« Pour commencer, si tu me disais d'où tu tiens les connaissances requises pour neutraliser un sort de vérification, surtout lorsqu'il travaille sur une chaîne de flammes. »
Richard parut franchement agacé. « Ne t'ai-je pas dit que je comprends le langage des emblèmes ?» Z croisa les mains dans son dos et entreprit de faire les 100 pas.
« Oui, et tu as même développé toute une théorie qui m'a laissé quelque peu pantois. Mais d'où tiens-tu cette connaissance, Richard ? Je suis bien placé pour savoir que tu n'as pas reçu dans ta jeunesse d'enseignement sur le sujet. »
Le sourcier prit une grande inspiration, la relâcha lentement et se radossa confortablement à son siège. Ayant été élevé par Z, il comprenait très bien ce qu'il voulait dire, et il savait que le vieil homme, quand il était en quête de réponse, ne lâchait jamais sa proie. Le plus simple était donc à l'évidence de satisfaire sa curiosité. Richard posa les mains sur ses genoux, paumes ouvertes, afin d'exposer les étranges symboles qui décoraient ses serre-poignets rembourrés de cuir. Au centre de chacun figurait une grâce miniature. Ce détail était important puisque Nietzsche avait vu le sourcier utiliser les serre-poignets afin d'évoquer la Slif, une créature qui permettait de voyager 10 fois plus vite que par tout autre moyen. Les autres symboles n'évoquaient rien aux yeux de la magicienne.
Toutes les runes sur les serre-poignets sont en fait des pictogrammes, en d'autres termes des emblèmes. Comme je te l'ai dit, il s'agit d'une forme de langage.
Z brandit un index squelettique vers un serre-poignet.
Et tu peux comprendre le sens de ces pictogrammes, comme tu l'as fait devant le construct?
Absolument. La plupart des runes traitent de la manière de manier l'épée de vérité. C'est pour ça que j'ai pu les identifier puis commencer de les déchiffrer.
D'instinct, Richard voulut tapoter le pommeau de son arme, mais il ne trouva que du vide sur sa hanche gauche. Un peu surpris, il tressaillit puis reprit son exposé.
Beaucoup de ces runes sont identiques à celles qu'on trouve à l'extérieur de l'enclave privée du premier sorcier. Tu vois ce que je veux dire, Zed. On voit ces signes sur les plaques de cuivre, sur les colonnes de pierre rouge, sur les disques de métal de la frise et sur le linteau de la porte. La plupart de ces emblèmes se rapportent ouvertement à l'escrime.
Nietzsche en scia de surprise. Richard ne lui avait jamais parlé des runes sur ses serre-poignets. Gardien de l'épée de vérité, la charge historique du premier sorcier, Z avait également mission de nommer un sourcier lorsque le besoin s'en faisait sentir. À le voir écarquiller les yeux, il semblait évident qu'il ignorait tout des runes et de leur signification. Au fond, c'était compréhensible. L'arme avait été fabriquée des millénaires plus tôt par des sorciers aux pouvoirs inimaginables.
« Ce pictogramme-là !»
s'écria Zed en désignant un des symboles.
« On le retrouve sur la porte de l'enclave !»
Richard tourna son autre bras et tapota un symbole solaire sur le serre-poignet. Zed prit les poignets du sourcier, les tirant à la lumière pour mieux étudier les runes.
« Oui, tu as raison. Tu crois sincèrement que ces emblèmes ont un sens que tu aurais déchiffré ?»«
Bien évidemment. » Le vieil homme ne semblait toujours pas convaincu.
« Tu peux être plus explicite, mon garçon. »
Richard tapota une rune sur un des serre-poignets, puis désigna un des clous qui décorait ses bottes. Le même symbole y figurait, et on le retrouvait sur la bande jaune qui courait tout au long de l'ourlet de sa tunique noire. Jusque-là, Nietzsche ne s'était jamais aperçu de la présence du motif sur ce qu'elle prenait pour un ornement vestimentaire. Le symbole était composé de deux triangles et d'une ligne ondulée qui les entourait et les traversait. Ce symbole représente le rythme à adopter lorsqu'on combat contre plusieurs adversaires. Il indique la bonne cadence et les mouvements non gravés dans le marbre.
« Les quoi ?»
demanda Zed. « Allons, tu devrais savoir ça. Il s'agit de gestes qui ne sont ni imposés ni codifiés, mais qui ont cependant un objectif précis et traduisent une intention bien déterminée. Cette rune décrit un moment qui fait partie intégrante de la danse.
« La danse ?
La danse avec les morts, oui.
Avec les morts, rien que ça. »
Le vieux sorcier prit le temps de faire le tri parmi la multitude de questions qui lui venaient à l'esprit. Au bout du compte, il se décida pour ce qui devait être la plus simple.
« Et quel rapport avec les runes qui ornent l'enclave ?»
Richard lustra du pouce droit les symboles qui figuraient sur son serre-poignet gauche.
« Eh bien, ces runes auraient un sens évident pour un sorcier de guerre. C'est en partie pour ça que je les comprends. Toutes les professions ont leur emblème. Un couturier fera peindre une paire de ciseaux sur son enseigne, un armurier choisira un couteau ou une épée, un tavernier optera pour une chope, un forgeron éliera une enclume et un maréchal ferrant se fixera sur un fer à cheval. Certains symboles, par exemple un crâne et deux os croisés, préviennent d'un danger mortel. Dans le même ordre d'idées, les sorciers de guerre ont placé des enseignes sur l'enclave. Mais il y a plus important. Toutes les professions ont un jargon bien particulier, tu n'es pas sans le savoir. C'est pareil pour les sorciers de guerre. Et le jargon de ma profession a un rapport très net avec la mort. Toutes ces runes sont les enseignes d'un métier qui consiste à être le messager de la mort. »
Zed se racla la gorge, baissa les yeux et désigna un autre symbole sur un serre-poignet.
« Celui-là est également sur la porte de mon enclave. Tu sais ce qu'il signifie? Et si oui, peux-tu me traduire ce qu'il dit ?»
Richard tourna très légèrement son poignet et étudia le symbole.
Ce pictogramme rappelle qu'il ne faut jamais fixer sa vision sur un seul point.
Le symbole solaire conseille vivement de regarder partout à la fois et de ne rien privilégier, car il ne faut jamais permettre à un ennemi de décider à notre place de ce qu'on doit voir. Sinon, on entre dans son jeu, on devient en quelque sorte aveugle et on finit par être frappé à mort sans même avoir remarqué qu'on était menacé.
Il faut être ouvert à tout et voir partout autour de soi, même lorsqu'on porte un coup de grâce. Pour danser avec les morts, il faut comprendre son adversaire et ne plus faire qu'un avec lui. On doit déterminer comment il réfléchit en fonction de l'étendue de son savoir afin de connaître son épée aussi bien que celle qu'on manie soi-même. La position d'un adversaire, la vitesse du coup qu'il décoche, celui qu'il prévoit de porter ensuite. Sans anticipation, aucune victoire n'est possible.
En s'entraînant à voir et à prévoir, en aiguisant ses sens, on finit par connaître d'instinct l'esprit de son ennemi et les manœuvres qu'il envisage.
Zed se gratta pensivement la tempe.
« Dois-je comprendre que tous les symboles relatifs aux sorciers de guerre forment un banal manuel d'escrime ?»
Richard secoua la tête.
« Bien sûr que non. Le mot « épée » symbolise toutes les formes de combat, et pas seulement sur un champ de bataille. » Ces conseils couvrent toutes les stratégies dont on peut avoir besoin dans la vie, même et surtout lorsqu'on est un chef.
Pour danser avec les morts, il faut s'être engagé sans arrière-pensée sous la bannière de la vie.
Quand l'esprit, le cœur et l'âme sont gagnés à cette cause, on devient capable d'incarner la mort, la plus terrible façon d'être son messager, et de la répandre autour de soi afin d'assurer la victoire de la vie.
Z en resta bouche bée, et Richard s'étonna de cette réaction.
Tout ça colle parfaitement avec ce que tu m'as enseigné quand j'étais petit.
Ce n'est pas faux, Richard, mais ça dépasse tellement ma pauvre philosophie.
Richard hocha la tête, puis lissa distraitement un des symboles, concentré comme s'il cherchait ses mots.
Z, je sais que tu aurais aimé m'apprendre tout ça, et particulièrement ce qui est lié à ton enclave. C'est la même chose avec la grâce. En tant que premier sorcier, c'était ton privilège, et j'aurais peut-être dû attendre.
Richard brandit presque rageusement le poing.
Mais des vies étaient en jeu, il me fallait agir, alors j'ai appris sans toi.
Fiche très foutre, Richard. Comment t'aurais-je enseigné tout ça? Fiston, le sens de ces symboles est perdu depuis des millénaires. Aucun sorcier de ma connaissance n'a jamais pu les déchiffrer. Je me demande bien comment tu as réussi, soit dit en passant.
Une fois qu'on a commencé à comprendre, c'est très facile.
Z foudroya son petit-fils du regard.
Richard, j'ai grandi ici et j'y ai passé une grande partie de ma vie. À une époque, j'étais déjà le chef et il y avait encore dans cette forteresse d'autres sorciers pour obéir à mes ordres. Depuis toujours, je vois les symboles devant l'enclave et je n'en ai jamais déchiffré un. C'est peut-être simple pour toi, mais tu es bien le seul. D'ailleurs, je n'écarte pas l'hypothèse que tu t'imagines comprendre ces runes, leur donnant le sens qui t'arrange.
Je n'imagine rien du tout. Ces symboles m'ont sauvé la vie des dizaines de fois. Grâce à eux, j'ai appris à me battre et à gagner.
Z n'insista pas. En revanche, il désigna l'amulette que Richard portait autour du cou. Au centre, entouré par un entrelacs de lignes en fil d'or et d'argent, se trouvait un rubis en forme de larme, gros comme le pouce de Nietzsche.
« Tu as trouvé ce bijou dans l'enclave. Sais-tu également ce qu'il signifie ?»
Ce bijou faisait partie de la tenue d'apparat d'un sorcier de guerre, comme la tunique, la cape, les bottes, les serre-poignets et d'autres accessoires.
« Et que signifie-t-il ? »
Richard caressa avec un grand respect le magnifique rubis.
La pierre est à l'image d'une goutte de sang. L'emblème gravé sur ce talisman est la représentation symbolique du premier édit.
Comme s'il en avait assez de voir défiler les énigmes, Z se prit le front entre le pouce et l'index.
« Le quoi ?»
Richard regardait maintenant fixement l'amulette et il semblait hypnotisé.
« Le premier édit. Il pourrait se résumer par un mot. Frapper. Une fois engagé dans un combat, tout le reste est secondaire. Frapper devient un devoir, un but et un désir. Aucune règle n'est plus importante que celle-là et rien ne permet de la violer. Frapper. »
Richard récitait ce qui ressemblait à une prière avec une conviction sereine qui glaça les sangs de Nietzsche. Prenant délicatement l'amulette, il la porta plus près de ses yeux. Les lignes sont une représentation abstraite de la danse. Frappe l'ennemi aussi vite et directement que possible. Frappe d'une main ferme, décisive et résolue. Détruis la force de ton adversaire et profite du premier défaut de sa cuirasse. Ne le laisse pas respirer, taille dans sa chair et écrase-le, puis dévaste son esprit impitoyablement. Sans la mort, il n'y aura pas d'équilibre et la vie en souffrirait. Cela s'appelle danser avec les morts. Un sorcier de guerre obéit aveuglément à cette loi où il meurt.
Z regarda son petit-fils avec un calme étonnant.
Donc, si je comprends bien, ces emblèmes nous apprennent qu'un sorcier de guerre est un simple homme d'épée.
Non. Pense à ce que je t'ai dit au sujet des autres symboles. Le mot « épée » peut être remplacé par des dizaines d'autres. Le premier édit n'a pas pour objectif de définir la façon dont un sorcier de guerre se bat avec une arme. En revanche,
il nous apprend comment il lutte avec son esprit.
Pour chacun de ses actes, un sorcier de guerre doit tenir compte d'une façon bien particulière de concevoir la réalité. S'il respecte à la lettre le premier édit, toutes les armes deviennent simplement des extensions de son esprit. Bref, des outils, comme tu aimes tant à le dire.
Tu te souviens de ton discours lorsque tu m'as nommé sorcier ?
Grâce à toi, j'avais déjà compris que ce n'est pas l'arme qui compte, mais l'homme qui la manie. Le premier porteur de cette amulette est un ancien premier sorcier nommé Barakus. C'était aussi un sorcier de guerre, comme moi. Il est également entré dans le temple des vents. Mais à son retour, il est allé dans l'enclave privée pour y déposer le talisman. Ensuite, il s'est donné la mort en sautant des remparts de la forteresse.
Le regard de Richard se voila, comme s'il s'immergeait dans un passé douloureux.
À une époque, j'aurais bien voulu l'imiter.
Les yeux rivés sur Richard, Nietzsche fut soulagé de le voir sourire, la preuve que cette mauvaise passe était surmontée.
Par bonheur, je suis revenu à la raison.
Un lourd silence suivit cette déclaration, comme si la mort en personne était en train de traverser la pièce sur la pointe des pieds.
Soudain, Z sourit, puis il posa une main sur l'épaule de Richard et la serra affectueusement.
« Je suis content de voir que j'ai choisi le bon sorcier, mon garçon. »
Nietzsche aurait donné cher pour que Richard ait toujours l'arme qui allait avec le titre. Mais il l'avait échangé contre des informations au sujet de Callan.
« Donc, puisque tu déchiffres ces emblèmes, tu te penses capable de comprendre ce qui formait le construct du sort des vérifications. Je te rappelle que nous parlons de la chaîne de flammes, fiston.
J'ai désactivé le construct, oui ou non ? »
Z croisa de nouveau les mains dans son dos.
« J'avoue que tu marques un point, mais ça ne veut pas dire que tu sois en mesure d'identifier des emblèmes au sein du construct, et encore moins que le sort d'oubli soit corrompu par les carillons. »«
Pas les carillons eux-mêmes, » corrigea Richard, « mais la souillure qu'ils ont laissée dans leur sillage lors de leur séjour dans notre monde. C'est cette corruption qui ronge le sort d'oubli. Toute l'affaire se résume à ça. »
Z se détourna, le visage avalé par les ombres.
« Richard, je suis navré, mais je dois insister. Comprendre le langage emblématique lié aux sorciers de guerre ne signifie pas automatiquement que tu saches tout le reste, et encore moins que ton interprétation des faits soit correcte.
Je suis sûr de moi, » affirma Richard.
« J'ai vu les stigmates de la corruption, et c'était bien l'œuvre indirecte des carillons. »
Le sourcier semblait très las. « Depuis combien de temps n'avait-il pas fermé l'œil ?» se demanda Nietzsche. À sa voix un peu rauque et à ses mouvements très légèrement hésitants, la magicienne aurait parié qu'il n'avait pas pris de repos depuis des jours. Mais la fatigue n'ébranlait pas sa détermination. Tant que l'inquiétude pour Callan le tiendrait debout, il multiplierait les exploits, c'était évident. Après qu'il l'eût arraché deux fois aux griffes du construct, Nietzsche n'était pas du tout encline à nier les théories de Richard. De plus, au fil du temps, elle avait compris qu'il possédait en matière de magie une sorte d'instinct infaillible qui entrait souvent en conflit avec la sagesse traditionnelle. Au début, elle avait cru que son postulat de base, pour lui, la magie s'apparentait à l'art jusque dans sa manière de fonctionner, lui venait de son enfance passée loin du pouvoir, en d'autres termes, de son manque de formation. Mais c'était inexact. L'instinct de Richard, combiné à une intelligence très originale, lui permettait de voir la magie sous un jour qui échapperait toujours aux tenants d'une stricte orthodoxie. Au fond, il comprenait peut-être simplement la magie d'une manière très proche de celle des antiques sorciers. Et justement, depuis des millénaires, personne n'avait pu voir les choses sous cet angle.
Z se retourna enfin, exposant une partie de son visage à la lumière des lampes et l'autre à la pâle lueur de l'aube qui filtrait de la fenêtre.
« Mon garçon, postulons que tu as raison au sujet des emblèmes qui ornent tes serre-poignets et l'entrée de mon enclave. Comprendre de telles choses est remarquable, certes, mais n'implique pas qu'on puisse interpréter les lignes scintillantes d'une toile de vérification. Le contexte est différent et tellement spécialisé. Je ne doute pas de tes talents, crois-moi, mais les sorts de ce type sont très complexes. On ne peut pas tirer de conclusion de
Z. » Le coupa Richard. « As-tu vu un dragon ces dernières années ? »
Le sorcier, Kara et Nietzsche en restèrent bouche bée. Quelle façon de sauter du coq à l'âne, et quel âne bizarre, vraiment.
Un dragon ?
Répéta le vieux sorcier, prudent comme un pêcheur qui marche pour la première fois sur un lac gelé.
Oui, un dragon.
Te souviens-tu d'en avoir vu un depuis que nous avons quitté Terre d'Ouest pour entrer dans les contrées du milieu ?
Zed lissa maladroitement ses cheveux en bataille, avec pour seul résultat de les ébouriffer davantage. Avant de répondre, il jeta un coup d'œil furtif à Kara et à Nietzsche.
Eh bien non, je ne crois pas en avoir vu, mais quel est le rapport avec...
Où sont-ils passés ? Pourquoi n'en as-tu croisé aucun ? Dans quel endroit se cache-t-il ?
De plus en plus déconcerté, Zed écarta les mains en signe d'impuissance.
« Richard, les dragons ne courent pas les rues, que je sache !»
Le sourcier se radossa à son siège et croisa les jambes.
« Les dragons rouges, c'est vrai. Mais selon Kalan, les autres espèces sont relativement communes. Les plus petites, paraît-il, sont spécialement dressées pour la chasse. »«
Où veux-tu en venir ?»
demanda Zed, de plus en plus méfiant.
« Où sont les dragons ? Pourquoi n'en voyons-nous jamais ?» C'est le cœur de mon problème.
Zed croisa agressivement les bras sur sa poitrine.
Bon, j'abandonne. Quel est le sens de ce discours, mon garçon ?
Eh bien, il concerne surtout ces trous de mémoire. Le sort d'oubli n'a pas seulement effacé tes souvenirs de Kalan.
Et que devrais-je me rappeler d'autre ? Que veux-tu dire exactement ?
Au lieu de répondre à son grand-père, Richard tourna la tête vers Kara.
As-tu vu un dragon ? Demanda-t-il.
« Pas ma connaissance, ou sinon c'est que j'ai oublié.
C'est ce que vous pensez, seigneur ?»«
Darkenral avait un dragon. Tu l'as certainement vu puisque tu servais de garde du corps au puissant seigneur Ral. »
Zed et Kara échangèrent un regard inquiet.
« Et toi, Nietzsche ?»
demanda Richard en tournant la tête vers la magicienne.
« J'ai toujours cru que les dragons étaient des créatures de légende. On n'en trouve pas dans l'Ancien Monde. » Et s'il y en a eu un jour, ils ont disparu depuis longtemps.
Et depuis que tu es dans le Nouveau Monde, il n'y a rien de changé ?
Nietzsche hésita un peu à raconter son souvenir. Mais à voir la détermination de Richard, elle devinait qu'il ne se laisserait pas détourner de son sujet de prédilection. Quelle que soit l'équation à multiples inconnues que Richard tentait de résoudre, il agissait pour servir une noble cause. Sous son regard insistant, la magicienne comprit qu'elle ne parviendrait pas à se dérober. Soulevant, puis écartant la couverture, elle fit glisser ses jambes dans le lit afin qu'elle pende dans le vide. Si elle évoquait cette époque, pas question d'être en position d'infériorité devant son public. Quand elle eut saisi un montant du lit pour se stabiliser, Nietzsche plongea son regard dans celui de Richard.
Lorsque nous étions en chemin vers l'Ancien Monde, très peu de temps avant de quitter le Nouveau, nous avons vu un gigantesque squelette. Je ne suis pas descendu de mon cheval pour l'examiner, mais je te revois encore, en train d'étudier les côtes qui faisaient bien deux fois ta taille. Je n'avais jamais rien vu de tel. D'après toi, c'était les restes d'un dragon. Je croyais qu'ils étaient très anciens, mais tu m'as détrompé. Il y avait encore des lambeaux de chair par endroits, et la présence de mouches indiquait que la carcasse était récente.
Richard approuva du chef ce compte-rendu parfait de l'incident.
« Et toi, tu as vu un dragon, Richard ?»
demanda Zed.
« Bien vivant, je veux dire. »«
Écarlate. »
« Plaît-il ?»
C'était une femelle, et elle se nommait Écarlate.
« Tu as rencontré un dragon et il avait un nom ?»
Richard se leva et alla se camper devant la fenêtre pour regarder dehors.
« Oui, c'est ça. Le monstre s'appelait Écarlate. Une noble bête qui m'a souvent aidé par le passé. »
Le sourcier se détourna de la fenêtre.
« Mais l'important, c'est que tu la connais aussi.
Moi ?»
s'écria Zed.
« Moins bien que Kalan et moi la connaissons, mais tu l'as rencontrée. »
Le sort d'oubli t'a privé de ce souvenir, voilà tout. Le but était que tout le monde oublie Kalan, mais il y a eu des dégâts collatéraux en très grand nombre. Zed, il est possible que tu aies naguère connu mieux que moi le sens des symboles.
Si c'est le cas, ce savoir s'est effacé de ta mémoire. Combien d'autres choses as-tu oubliées? Je ne suis pas un expert en magie, mais pendant que nous combattions la bête, il m'a semblé que tu n'utilisais pas tout ton arsenal, loin s'en faut. Tes assauts étaient simplistes et prévisibles. Heureusement, Nietzsche a fait montre d'inventivité. C'est ce que les créateurs du sort d'oubli craignaient plus que tout au monde, la réaction en chaîne. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais lancé le sortilège, même à titre expérimental. Une fois activé, le sort risquait de détruire tout ce qui se rapportait de près ou de loin à sa cible, Kalan dans le cas qui nous occupe. Tu ne te souviens plus de ma femme, et tu as également oublié Écarlate, au point de croire que tu n'as jamais vu de dragon. Nietzsche se leva du lit.
Richard, personne ne prétend que la chaîne de flammes est inoffensive. Tout le monde mesure le danger, et nous savons tous que notre mémoire est désormais lacunaire. Crois-tu qu'il soit facile de nous dire que nous avons oublié des gens et des événements de la première importance? Mesures-tu à quel point il est angoissant de s'interroger sans cesse sur ses propres actes, tout ça parce qu'on en a sûrement oublié une bonne partie? Pourquoi retournes-tu tout le temps le couteau dans notre plaie?
Parce que nous devons déterminer ce qui a été perdu. Nietzsche, je pense que le processus de destruction se développe dans la mémoire de tous les humains. Le sort d'oubli ne peut pas se limiter à une cible, une seule personne, si importante fut-elle. Une fois activé, il provoque nécessairement une réaction en chaîne. Le processus de destruction de toutes les mémoires est loin d'être enrayé.
Zed, Kara et Nietzsche tournèrent tous la tête pour échapper au regard hypnotique de Richard.
Comment l'aider ? Se demanda la magicienne. Si leur cerveau à tous se détériorait jour après jour, s'ils oubliaient le lendemain tout ce qu'ils avaient appris la veille, dans ces conditions, le sourcier pouvait-il leur faire confiance?
J'ai bien peur que nous n'en ayons pas fini, dit Richard, et que le pire soit devant nous. Comme beaucoup de créatures des contrées du milieu, les dragons ont besoin de la magie pour vivre. Que se passera-t-il si la corruption due au carillon les prive du pouvoir qui leur est nécessaire? Et s'ils avaient déjà disparu, s'ils ne s'étaient pas seulement effacés de la mémoire des gens, mais aussi de la surface du monde? Beaucoup de créatures magiques ont peut-être déjà subi ce sort.
Richard se tapota la poitrine.
Nous sommes tous des créatures magiques puisque nous avons le don. Qui peut dire quand la souillure laissée par les carillons commencera à nous détruire?
Mais peut-être,
commença Zed. Il n'alla pas plus loin, faute d'arguments convaincants.
Le sort d'oubli lui-même est contaminé, dit Richard. Nous avons tous vu ce que le construct faisait à Nietzsche. Ayant été prisonnière du sortilège, elle sait très bien ce que je veux dire. Nul ne peut déterminer jusqu'à quel point la contamination modifie le fonctionnement du sort. Qui sait? C'est peut-être à cause d'elle que les mémoires sont plus affectées que prévu.
Mais il y a plus grave encore. Désormais, la corruption et le sort d'oubli ont une relation symbiotique.
Que veux-tu encore dire?
S'agaça Zed.
Quel est le but des carillons? La tâche pour laquelle ils ont été conçus?
Détruire la magie, ni plus ni moins.
Le sourcier inspira à fond pour se calmer. La contamination laissée par les carillons détruit la magie. Les créatures qui dépendent de la magie, les dragons par exemple, sont logiquement les premières affectées. Et cet incendie se propagera.
Mais personne n'en a conscience parce que la chaîne de flammes efface des mémoires toutes les espèces qui disparaissent.
Comme une sangsue qui anesthésie ses victimes avant de les vider de leur sang, le sort d'oubli dissimule l'œuvre destructrice de la souillure que nous ont léguée les carillons.
Le monde change radicalement, et ses habitants ne s'en aperçoivent pas. Comme si tous oubliaient que la magie a une influence capitale sur la réalité, le pouvoir agonise et en même temps s'efface de la mémoire des gens.
Richard se tourna de nouveau et regarda dehors.
Un nouveau jour se lève. Encore une journée qui verra la magie agoniser sans que nul en ait conscience. Quand elle sera morte, je doute que quiconque se souvienne encore de son existence. Peu à peu, le monde où nous avons vécu devient un royaume de légende.
S'appuyant du bout des doigts à la table, Zed aussi regarda l'aube se lever. L'étrange qualité de la lumière mixte accentuait ses rides déjà très marquées. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Nietzsche trouva qu'il ressemblait pour de bon à un vieillard.
« Par les esprits du bien,
murmura-t-il.
« Dire que tu as peut-être raison, Richard. »
À cet instant, quelqu'un frappa à la porte. Cara alla ouvrir, puis invita Anna et Nathan à entrer.
« Nous avons jeté un sort de vérification extérieure, » annonça le prophète.
« Et alors ?»
demanda Zed.
« Pas de défaut à signaler, »
répondit Anna.
« Tout s'est déroulé normalement. »« Comment est-ce possible ?»
s'écria Kara.
« Nous avons tous vu que l'autre déraillait. Sans l'intervention du seigneur Alnitchi, y aurait laissé sa peau. »«
C'est bien ce qui m'intrigue, » avoua Nathan.
« Une vérification intérieure est bien plus informative qu'un sort standard, »
expliqua Zed à la mort de Sith.
« Ce n'est pas un bon signe, pas du tout même. La contamination s'enfouit le plus profondément possible afin de ne pas être repérée. C'est pour ça qu'elle est indétectable dans le sort classique. »«
Il y a une autre possibilité, »
dit Anna en glissant les mains dans les manches de sa robe grise toute simple.
« Le construct est peut-être parfaitement sain. Après tout, aucun sorcier ne l'a lancé depuis des millénaires. Et si nous avions simplement commis une erreur ?»«
J'aimerais que ce soit ça, » dit Zed. « Hélas, je n'y crois plus. »
Nathan voulut intervenir, mais Anna le devança de plusieurs longueurs.
« Même si les sœurs qui ont lancé le sort ont eu recours à une toile de vérification, »
dit-elle,
« elles ont sûrement opté pour la procédure standard. Du coup, elles n'ont pas pu remarquer la contamination. »
Accablé, Richard se massa lentement le front. «
Même si elles l'ont remarqué, elles s'en sont fichues comme d'une guigne. Pourquoi se seraient-elles souciées des menaces qui pèsent sur le monde? Leur objectif est de voler les boîtes d'Orden afin que leur magie dévaste l'univers des vivants. »«
Que se passe-t-il exactement ?»
demanda Nathan, visiblement inquiet.
« Qu'est-ce qui nous arrive ?»«
Nous venons d'apprendre que perdre la mémoire n'est qu'un début, »
répondit Nietzsche. Comme c'était bizarre. Vêtue d'une chemise de nuit rose, au milieu d'une chambre douillette, elle prononçait la sentence de mort du monde.
« Nous nous perdons nous-mêmes. Le monde nous échappe. » Et notre propre personne nous glissera un jour entre les mains comme du sable.
Immobile comme une statue, Richard regardait toujours dehors, et il ne semblait plus accorder une once d'attention à la conversation.
« Quelqu'un approche de la forteresse, » annonça-t-il.
« Tom et Friedrich, peut-être, »
avança Nathan.
« Il ne reviendrait pas si vite d'une patrouille, »
le détrompa Zed en se dirigeant vers la fenêtre.
« Eh bien, il se peut que... »«
Il ne s'agit pas de nos amis, »
dit Richard. Il se détourna de la fenêtre et gagna la porte.
« Ce sont deux femmes. »